Il y a 6 ans, une juive, Sarah Lemy, a été défenestrée par son voisin. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit. Un crime raciste qui a été impuni. C'est le titre du documentaire qui sera diffusé le 2 juin prochain à 22h45 sur la chaîne RMC Story, canal 23. Avec nous, bonjour, le réalisateur du documentaire, Monsieur Margolin, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Question toute simple, comment vous êtes arrivé sur le fait de traiter l'affaire Halimi ?
Parce que je pense que c'est l'affaire la plus grave qui ait concerné la communauté juive depuis très longtemps. C'est un crime qui a eu lieu il y a 6 ans, qui a beaucoup marqué la communauté juive, je crois beaucoup moins... les Français en général qui ne sont pas juifs. Mmh. Et je pensais essentiel, puisque je travaille sur le sujet depuis le tout début, j'ai participé aux premières pétitions pour essayer de faire connaître l'affaire il y a cinq ans. J'ai travaillé avec Noémie Alioua, qui est une journaliste qui a été la première à faire des articles dessus et à faire un livre. Voilà, donc ça me semble être sans doute l'affaire la plus marquante pour la communauté juive, dont je fais partie d'ailleurs, et parce que c'est un crime où il n'y a pas de sanction. Et donc, puisque l'assassin a été déclaré irresponsable, sous prétexte d'une bouffée délirante, et c'est pour ça que j'ai cherché avec ce film à reprendre l'enquête depuis le début, interviewer toutes les parties, que ce soit aussi bien les experts psychiatres qu'on aboutit à cette idée d'irresponsabilité, aussi bien l'avocat de l'assassin. J'ai essayé d'être le plus, je sais pas comment dire, objectif possible, même si j'ai évidemment un point de vue que je pense que profondément ce crime est antisémite. Et j'ai cherché à faire en sorte que de démontrer tous les problèmes qu'il y a eu dans cette affaire et qui ont fait qu'on a abouti à finalement à disculper l'assassin, Kobili Traoré, parce que ça me semblait essentiel. Je pense que c'est sans doute une des choses les pires qui soit arrivée à la communauté juive. Non pas qu'il n'y ait pas eu d'autres crimes antisémites, d'assassinats de gens, que ce soit Ali Perkacher, que ce soit Ilan Halimi, que ce soit pas mal de gens, mais en général, il y a toujours un procès. Et là, dans cette affaire, il n'y en a pas. Et il risque de ne jamais y en avoir. J'espère que mon film contribuera peut-être à la réouverture d'une enquête sur le sujet, parce que je crois que c'est essentiel si on veut que les Juifs se sentent bien en France et pas seuls.
Est-ce que c'était compliqué de monter un documentaire pareil pour retrouver des infos ou des choses qui n'étaient pas montrées, ou ça a été assez rapide au niveau des documents de départ?
Non, ça a été assez compliqué, mais il se trouve que comme je travaille dessus depuis 5 ans, je connaissais à peu près toutes les parties dans l'histoire, mais c'est vrai qu'il a fallu que je convainque, par exemple, les experts psychiatres qui n'avaient jamais dit quoi que ce soit, que je convainque aussi l'avocat de l'assassin, toutes sortes de gens pour leur expliquer par A plus B, et voilà, que je souhaitais entendre leur point de vue. C'est comme ça que je fais des documentaires. C'est-à-dire, j'aime entendre tous les points de vue, ce qui ne veut pas dire que je les trouve égaux, mais simplement, je pense que c'est important d'écouter toutes les parties, parce que c'est comme ça, à mon avis, qu'on aboutit à la vérité, voilà, démontrer ce qui s'est passé.
Alors cette histoire a débuté il y a 6 ans. Alors c'était une période un peu spéciale parce que c'était juste avant une période électorale, je crois. Le fait qu'on n'en parle pas beaucoup pour vous, c'est déjà un premier accueil?
Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit à cette époque-là, c'était donc 15 jours environ avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, il y a beaucoup de gens qui ont dit, y compris certaines personnes dans la communauté juive, malheureusement, on dit il ne faut pas faire le jeu du Front National, comme on dit souvent.
Donc ne pas communiquer l'affaire.
Voilà. Essayer de faire le moins de bruit, voilà, pas essayer de monter en épingle cette chose. D'autres gens se sont dit, les Juifs sont paranoïaques, ils pensent toujours qu'on s'attaque à eux alors que c'est simplement un fait divers. Non, c'est pas un fait divers, c'est un crime qui, par beaucoup d'aspects, peut passer pour un crime rituel salafiste. Je ne dis pas avec certitude que ça l'est, mais c'est quelque chose qui n'est pas un fait divers comme les autres. Il y a la volonté chez l'assassin qui était le voisin de Madame Halimi, qui la menaçait régulièrement dans les escaliers de son immeuble. Il y a la volonté de la tuer parce qu'elle était juive.
Alors il y a quand même quelque chose qui est étonnant, c'est que Sarah Halimi avait déjà déposé plainte et avait déjà dit qu'il y avait un des personnes, en l'occurrence son futur meurtrier, qui l'a plusieurs fois menacé. Comment ça se fait que cette plainte n'a pas été prise au sérieux ?
Bah écoutez, c'est le nombre de plaintes qui ne sont pas prises au sérieux.
D'accord.
Malheureusement, elles sont très nombreuses. Elle en était même au point où elle avait d'ailleurs cherché d'elle-même à déménager. Elle cherchait, et c'est expliqué dans le film, elle cherchait à aller dans un autre quartier. Pourtant, on était en plein cœur de Paris.
Mais elle voulait faire une son alia, dit la voisine. Sarah Halimi avait prévu de faire son alia un peu plus tard, d'aller en Israël.
Alors, elle avait d'abord cherché à s'installer à Créteil. Et puis, il y a eu un meurtre antisémite, elle s'est dit, je vais effectivement plutôt faire mon alia. Ce qu'ont fait d'ailleurs ses enfants, finalement, et son frère, a posteriori, après son assassinat. Et c'est vrai que c'est très symbolique de quelque chose. C'est-à-dire que la police ne fait pas, malheureusement, grand-chose. Et je ne dis pas qu'elle cherche à ce que les Juifs soient tués, je ne suis pas du tout à dire ça, mais beaucoup de gens dans la police ne se rendent pas compte, disons, de l'ampleur des menaces sur la communauté juive. Et c'est grave, parce que si vous voulez, moi je viens d'une famille qui a fui les pogroms d'Europe de l'Est il y a très longtemps, mes grands-parents. À l'époque, on disait heureux comme un juif en France. Je crois qu'aujourd'hui, je ne suis plus sûr qu'on puisse dire une telle chose, malheureusement. Et j'espère que ça reviendra.
Qu'est-ce que ça veut dire vivre heureux en France, c'est-à-dire sans être tué ?
Ça voulait dire que le pays, la France, c'était pour beaucoup de gens qui fuyaient donc les pogroms d'Europe de l'Est. C'était le pays de la Révolution française, qui premier avait reconnu le fait que les Juifs étaient égaux aux autres citoyens français. Et ça voulait dire que c'est le pays de la liberté, égalité et fraternité. Donc c'est ça qui les faisait venir en France, même peut-être plus qu'aux États-Unis. D'autres sont partis évidemment aux États-Unis. Mais la France avait cette symbolique qui était essentielle pour la communauté juive, issue de tous les pays, où l'antisémitisme était beaucoup plus virulent encore qu'en France. Alors, il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis. Il y a eu évidemment les rafles pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'affaire Dreyfus, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était important, qu'on puisse avoir un pays où on puisse venir se réfugier. Et puis, évidemment, il y a évidemment la création d'Israël en 1948. Mais donc, tout ça fait que, effectivement, j'espère qu'on va revenir à cette idée-là et que les Juifs n'auront pas comme seule solution de partir ailleurs, en particulier en Israël. Je ne suis pas du tout contre le fait que les gens aient envie de faire leur alia, mais par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que ça soit la seule solution.
Un crime antisémite est impuni le 2 juillet à 21h45 sur la chaîne RMC Story, réalisée par François Margolin. Question, pourquoi 22h45 et pas un prime time ? C'était comme ça dans le début ?
Écoutez, c'est pas moi qui ai choisi, malheureusement, avec les chaînes de télévision, c'est eux qui décident. Moi, je ne peux que remercier RMC Story, franchement, qui est la seule chaîne qui s'est mouillée dans l'histoire, qui a eu envie de qu'on parle de cette affaire, pour qui c'est une chose essentielle. Et donc, du coup, je crois que c'est une heure de grande écoute, malgré tout.
Oui, 22h45, en plein été, ça va encore.
Oui, ça va encore. Et puis, c'est une chaîne voilà, où le dimanche soir, les gens ont un peu plus de temps. Et puis, voilà, le film sera en plus rediffusé à plusieurs reprises. Donc, je ne veux pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le regarder le 2 juillet, mais c'est malgré tout une bonne heure. Et je crois que, voilà, que c'est important qu'il puisse passer et qu'on puisse, grâce au film, peut-être espérer un miracle qu'un jour... cette affaire soit réouverte et qu'enfin l'assassin soit sanctionné.
Ah, alors on va revenir sur votre film et sur cette affaire après une pause musicale.
Merci.
Crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, et tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir, bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme grain de raisin, petit bout de petit rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Oh, tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps.
Tu es de ma famille, tu
protège si longtemps.
Notre invité, François Margolin, réalisateur du documentaire Un crime antisémite et impuni, qui sera diffusé ce dimanche 2 juillet à 21h45 sur RMC Story. François Margolin, alors, ce qui est intéressant dans votre film, c'est, vous le dites, vous donnez la parole à tous les participants de cette histoire. Qu'est-ce qui vous a surpris dès le début ? C'est qu'il y ait des policiers qui soient sur place et qui n'ont pas agi, ou l'enquête qui a eu après?
Écoutez, je crois que la chose la pire que j'ai effectivement découverte dans cette affaire, c'est l'attitude de la juge d'instruction. C'est-à-dire, la juge d'instruction était persuadée depuis le début que l'assassin n'était pas responsable. Du coup, elle n'a fait aucune enquête sérieuse, elle n'a pas fait de reconstitution du crime, qui est pourtant très... très compliqué, même matériellement, pour comprendre comment on passe d'un balcon à l'autre, en plus prétendument sous l'emprise du cannabis. Donc c'est sans doute la chose la pire que j'ai découverte. L'autre chose, c'est la confusion qui a régné dans la police. C'est-à-dire, il y a de nombreuses équipes de police qui étaient là, très vite, mais ils sont restés derrière la porte. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, un désordre absurde. Ce qu'on peut se dire, c'est que s'ils étaient intervenus très vite et manu militari, peut-être que Sarah Lini n'aurait pas...
Pourquoi ils ne sont pas intervenus ? Parce qu'en fait, il y a aussi une histoire avec le voisin qui a accueilli en premier l'assassin. Qui est là aussi une famille, on n'a pas fait d'enquête, on n'a pas vérifié qui ils étaient, si c'était vrai, etc. Et il y a un imbroglio au niveau du rôle de cette famille qui est assez bien montré dans le film.
Oui, parce que si vous voulez, il s'appelle Diarra.
Ouais. Je ne vais pas citer le nom, mais bon.
Mais c'est les cousins en plus de la famille Traoré, c'est-à-dire qu'ils viennent du même village au Mali. Et ils sont, dans l'histoire, ils se sont fait passer pour des victimes. Alors que selon moi, plusieurs d'entre eux, je ne dis pas forcément toute la famille, je suis en train d'accuser, étaient complices de la chose, je crois. Et donc, le fait qu'ils soient considérés comme des victimes a fait qu'il n'y a pas eu d'enquête sérieuse sur leur rôle. Et il se trouve que, par exemple, on le voit dans le film, une des filles, ils ont plusieurs enfants, une des filles a jeté les clés de l'appartement par la fenêtre. Les filles
pour le policier, oui.
L'ont récupéré, et pourtant ils n'ont rien fait, ils sont tout de même restés derrière la porte. Dans le film, on voit une chose, enfin, je ne vais pas tout spoiler, quand un juriste dit, j'avais pas remarqué qu'il y avait les clés, je croyais qu'il y avait juste le vigie, enfin, le truc qui permet de passer une porte. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup de confusion. Je ne dis pas du tout que les policiers fassent tout ça volontairement, mais je crois que c'est un peu finalement aussi comme au Bataclan, d'ailleurs c'est le même commissariat du 11e arrondissement.
Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a tout le monde, même en dehors du périmètre où habitait Sarah Halimi, a entendu des cris, a entendu le bruit des perceuses et je ne sais quel élément a utilisé le meurtrier. C'est quand même un gros mensonge, je crois.
Ah oui, non, mais surtout tous les voisins étaient au...
Mais ils ont tous entendu.
Dans tous les sens du terme, ils ont assisté au meurtre, ils ont tous appelé, pas tous, une grande partie ont appelé la police, on dit, et les ordres n'ont pas du tout été transmis. Il y a eu une confusion parce qu'il y avait deux escaliers différents, mais enfin bon, la police, s'ils veulent intervenir, ils sont tout même stupides, quoi. Donc je pense qu'ils en ont vu d'autres. Et c'est tout même très étonnant, effectivement, qu'il n'y ait pas eu une initiative de la police, même s'il n'y avait pas d'ordre, comme ça s'est passé finalement au Bataclan, où il y a un des policiers qui passait par là, qui a pris l'initiative de descendre des terroristes, qui a évité, non pas tous les assassinats, mais qui en a évité beaucoup, beaucoup plus. Je crois que c'est, voilà, il y a un problème de, comme on dit, de direction ou de commandement dans la police, par moment, où il faut que les choses aillent plus vite et soient plus, comment dire, soient plus efficaces, parce que c'est... Voilà.
Alors François Margolin, vous l'avez dit dans le début de cette interview, vous avez interrogé même les psychiatres de la cour d'appel qui ont, on va dire, auditionné, en tout cas reçu Kobili Traoré, qui est le nom de l'assassin que je ne voulais pas citer. Et là, surprise, les deux spécialistes, finalement, disent qu'il n'est pas possible de traduire l'assassin puisqu'il est sous emprise de drogue. D'ailleurs, cette histoire fait beaucoup débat.
Ah ben elle fait beaucoup débat, parce que tout de même, dans les deux psychiatres, il y a le docteur Zaguri qui est très connu, qui lui a dit qu'il y avait altération du discernement, hein, c'est une clause juridique, ce qui fait qu'il y aurait pu, selon lui, il y aurait dû y avoir un procès. C'est l'autre psychiatre, M. Bensoussan, qui a déclaré qu'il y avait abolition du discernement. Abolition,
ah, c'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose, ça fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité d'un procès. Et donc, et alors, ce qui se passe, et ce qu'il dit d'ailleurs dans le film, c'est qu'il dit aujourd'hui qu'il s'était trompé. Et c'est, tout ça est logique, parce que si vous voulez, les psychiatres, c'est là où il y a tout de même des choses qui ne vont pas, selon moi, dans la justice et dans le rythme judiciaire, c'est que l'assassin a été interrogé par la psychiatre pour la première fois, 4-5 mois après les faits. Donc il avait le temps de se préparer...
À répondre aux questions.
À répondre, même faussement, quoi. Je suis pas en train de dire forcément que c'est des mensonges, mais enfin, il y a une forte probabilité, voilà. Disons qu'il est préparé, et comment on peut faire 5-6 mois avec ce qu'on appelle une bouffée délirante. Bouffée délirante, c'est quelque chose qui ne dure que quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Et voilà, comment 6 mois plus tard, on peut...
Il y a une deuxième question qui se pose, c'est l'idée de la préméditation. Est-ce que le crime était prévu ou pas? C'est ça la préméditation. Là aussi, les avis divergent. On dit oui, on dit non. Pour vous, c'est quoi la qualification exacte de ce crime-là, au niveau juridique, en tout cas?
Écoutez, moi je pense qu'il y a eu préméditation. Alors, mais je ne peux pas l'assurer. Si je dis ça, c'est parce que j'ai fait aussi un film il y a quelques années sur les salafistes. Je connais très bien les rituels salafistes, je connais très bien leur façon de procéder, de se préparer à des crimes, et tout ce qu'a fait Kobili Traoré dans la journée qui précède l'assassinat est tout à fait semblable à ce que j'ai vu dans différents pays où je suis allé pour interroger ce genre de gens, en Irak, en Syrie, dans tous ces endroits, où finalement, voilà, quand on tue quelqu'un, on se prépare à devenir un chaïd, à partir au paradis et à retrouver les 72 vierges prévues, donc on se lave, on prend des habits propres.
Et ce qu'il a fait.
Ce qu'il a fait. Donc c'est, disons, il y a soupçon, en tout cas, de préméditation et soupçon assez fort, disons, voilà.
Vous l'avez dit aussi, vous espérez qu'on rouvre l'enquête suite à votre documentaire. Ce qui est assez intéressant, c'est que toujours dans votre film, c'est pour ça qu'il faut le voir dimanche à 22h45 sur RMC Story. Je vous rappelle également, vous pouvez le regarder en replay sur le site de la chaîne. C'est que finalement, la juge, dès le début, n'a pas voulu faire de rostion, n'a pas voulu écouter des témoins, n'a pas voulu un certain nombre de choses. Et apparemment, elle a expédié cette affaire un peu beaucoup rapidement, sans chercher à savoir.
Par-dessus la jambe, elle explique dans le film qu'elle n'avait pas le temps de... qu'elle avait trop de travail, quoi, en gros. Et je pense
elle n'a même pas reçu des avocats, d'ailleurs, hein.
Oui, elle a refusé de recevoir les avocats en disant que j'ai autre chose à faire.
Voilà.
Enfin, c'est des choses, franchement, qui sont indignes. Voilà, je n'hésite pas à le dire, parce que je trouve...
Mais il faudrait que ce soit un changement de juge, alors.
Mais ça, c'est le problème de la justice. Ah. C'est-à-dire que ça, c'est très difficile de changer de juge. Je ne connais pas exactement la façon de mener des procédures judiciaires, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui ont contribué au fait qu'il n'y ait jamais de procès. C'est-à-dire que peut-être qu'avec un autre juge, les choses se seraient passées différemment. Il y aurait eu tout de même un procès, même éventuellement, pour qu'on aboutisse à l'audience, à dire, à conclure qu'on ne sait pas si c'était responsable ou pas responsable, mais au moins il y aurait eu le début d'une intention de sanctionner ce crime. Et là, ce n'est pas le cas.
Alors, en deux minutes qui nous restent, François Margolin, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui hésiteraient encore à regarder RMC Story ce dimanche? Comment vous les pousseriez à venir vous rejoindre? Qu'est-ce que vous diriez de votre documentaire?
Je dirais que c'est un film qui démontre par A plus B ce qui s'est passé et qui n'est pas, c'est un film marquant, c'est un film qui provoque de l'émotion, mais c'est pas un film
macabre,
triste à voir, voilà. Je sais pas comment dire. Si les gens avaient peur de regarder parce que c'est une histoire criminelle, ben c'est une histoire criminelle, mais qui est tellement complexe et qui touche tellement profondément la communauté juive que je crois qu'il est essentiel de voir ce film parce que c'est plus qu'important pour la communauté juive et pour faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire savoir si les juifs sont seuls ou pas. Et moi, je me rappelle très bien avoir entendu un député, en l'occurrence Julien Bayou, de Europe Écologie et Verts, expliquer que c'est une affaire qui concernait la communauté juive. Non, c'est une affaire qui concerne la France en général et les Français en général. Et ça, j'essaie de faire en sorte que, dans ce film, de montrer que c'est une histoire française, malheureusement, et que ce n'est pas une histoire qui ne concerne qu'une partie des Français, les juifs en l'occurrence. Je crois que c'est ça qui, à mon avis, est essentiel dans ce film et qui doit donner envie de regarder ce film et de voir la démonstration que j'y fais.
Un crime antisémite est impuni le 2 juillet à 21h45 sur RMC Story, la chaîne 23. Le réalisateur de ce documentaire, François Margolin, qui était notre invité, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour la diffusion de ce reportage. À très bientôt.
Merci beaucoup pour votre accueil. Merci.